Je voudrais donner la parole à Carole Artebiz et Christiane Véret sur l'évaluation de l'enseignement intégré des sciences et de la technologie.
Bonjour à tous. Ravie d'être là aujourd'hui et de voir un bon nombre d'entre vous qui sont des visages connus ou alors des voix connues. Donc ça fait très plaisir de voir une partie du réseau des innovateurs présents aujourd'hui sur un sujet aussi important que celui-là, l'évaluation. 3 ans après avoir lancé les expérimentations, nous sommes au cœur d'une des grosses problématiques de l'expérimentation, c'est l'évaluation. Le sujet sur lequel je dois intervenir, je vais reprendre exactement le titre parce que c'est intéressant de l'observer, qui a été choisi par l'INRP et Nantes. L'évaluation des expérimentations, article 34, l'enseignement intégré des sciences. Alors effectivement, je vais parler de l'évaluation à travers cette expérimentation toute particulière qu'est le IST. Alors ce nom un peu barbare, cet acronyme barbare, c'est l'enseignement intégré de sciences au singulier et de technologies. Ça a fait l'objet de nombreux débats entre l'inspection générale, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies et la DGESCO, parce que derrière il y avait de vraies intentions d'afficher un rapprochement des trois disciplines que sont les sciences physiques et chimiques, les sciences de la vie et de la terre, et la technologie. Donc là, c'est toujours assez difficile d'obtenir que le S de science ne soit pas écrit, que le mot technologie apparaisse. Mais c'est aussi intéressant de le voir avec un S, là, juste le mot science, et de voir le S apparaître, parce que ça, finalement, on y trouve aussi les trois. Donc tout le monde y trouve son compte. Voilà. Alors, pourquoi le IST, l'enseignement intégré de sciences et de technologies, comme une sorte d'entrée un petit peu dans le vif par rapport à une expérimentation? D'abord parce que c'est une expérimentation qui a une ampleur assez importante. Elle concerne 40 collèges, excusez-moi, je suis tellement en ce moment sur travailler sur le lycée que j'ai envie de dire lycée. Donc elle concerne 40 collèges en France. Au départ, elle a été lancée en 2006, il y avait une vingtaine de collèges. La raison pour laquelle se penche plus particulièrement cette expérimentation, c'est parce qu'elle a en quelque sorte une valeur d'exemple, une valeur de modèle, sans que toutefois il faille reprendre chacune des modalités, sans qu'il faille s'en inspirer complètement, parce que ce n'est absolument pas possible pour toutes les expérimentations, toutes les innovations, toutes les expériences pédagogiques de reprendre un processus aussi complexe que celui qui est mis en œuvre là pour cette expérimentation. Je vais reprendre les propos d'un inspecteur général, je ne cacherai pas son nom, c'est Monsieur Roja, qui s'intéresse tout particulièrement à cette expérimentation. Il disait qu'elle est très intéressante parce qu'elle englobe tout le dispositif des expérimentations, dont elle réunit tous les objectifs et les effets les plus fréquemment rencontrés. Parce qu'elle a une portée transversale et intégrée, cette expérimentation. Une des portées transversales et intégrées, c'est par exemple la liaison école-collège, parce qu'elle concerne bien évidemment la réussite des élèves, parce qu'elle touche l'orientation des élèves, et parce qu'elle a un impact très important sur la vie de l'établissement et sur son image. Il est très intéressant d'en observer les effets prévus, mais aussi et surtout les effets imprévus, que ce soit sur les enseignements, sur la vie de l'établissement, etc. Elle est intéressante aussi parce qu'elle fait converger tous les regards. Elle pousse tous les partenaires à s'organiser, à prévoir leur travail, à les rendre complémentaires et à communiquer. Voilà. D'autres petites choses que je voulais dire aussi par rapport à ça, si elle pousse tous les partenaires à s'organiser entre eux, à éviter les recoupements, donc il y a un gros travail où on a dû étudier de très près chacune des évaluations mises en œuvre pour éviter les superpositions, éviter les multiplications de dispositifs d'évaluation au cœur de la classe, parce que bien évidemment, les personnes qui sont les plus exposées, ce sont les élèves et les enseignants, parce que là, vous allez voir, la multiplicité des regards fait que ces gens sont en permanence sous les feux de la rampe, et ça peut parfois être assez difficile à vivre. Et y a une académie, une expérimentation en particulier, qui connaît la même chose que l'enseignement intégré des sciences, qui se déroule dans une école primaire, qui vit les choses un petit peu durement, parce que les regards sont multiples. Et la presse s'en est emmêlée. Et là, ça devient extrêmement lourd parce que le chef d'établissement, enfin le directeur de l'école, est maintenant un peu partout dans le monde, plus tellement dans sa classe pour parler, pour faire son travail. Il va parler un peu partout. Et ça commence à lui peser. Les enseignants également et les élèves commencent de temps à autre à manifester des petites surprises. Donc voilà. L'expérimentation en question, elle est assez connue. C'est Innovative School, où on travaille avec les nouvelles technologies en primaire. Elle est observée de très près par l'INRP. Des premières conclusions sont apparues et fort intéressantes. Voilà. Alors, un bref rappel, excusez-moi, juste une autre petite phrase, élément d'introduction. De temps à autre, je vais tout axer sur l'enseignement intégré des sciences, mais de temps à autre, je glisserai des petites remarques par rapport à des expérimentations que l'on a repérées au niveau national et qui vous apportent un complément de vision. Alors, un petit rappel théorique de ce qu'est l'enseignement intégré des sciences par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une expérimentation qui s'inscrit dans la continuité d'un dispositif que vous connaissez tous par son nom et par la personne qui l'a porté, c'est M. Charpak, c'est la main à la pâte, dont l'objectif était de donner un enseignement de science qui soit, j'allais dire, intelligent, mais qui soit bien coordonné entre les différentes disciplines au primaire en intégrant déjà la démarche d'investigation. Cette démarche de la main à la pâte, elle a été un petit peu formalisée, on va dire, en 2000 avec le PREST, le plan de rénovation d'enseignement des sciences et des technologies à l'école. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien lequel est lequel. En tout cas, les bienfaits sont là pour l'évolution de cet enseignement. 10 ans plus tard, donc 1996, début de la main à la pâte, 10 ans plus tard, 2006, on lance l'expérimentation des sciences intégrées au collège. Vous voyez, même moi, je dis l'expérimentation des sciences intégrées, je ne dis pas les choses correctement. Ça a été donc le fruit d'un partenariat déjà très important qui était mené avec le ministère, entre le ministère, l'Académie des sciences et l'Académie des technologies. Et là, ils ont souhaité continuer au niveau supérieur, c'est-à-dire au collège, sur les classes de 6e et les classes de 5e. L'objectif était le même qu'au primaire, c'est de faire converger les trois disciplines pour avoir un enseignement qui est intégré, qui se rapproche, dont on observe les complémentarités, pendant 3h30 chaque semaine. L'enseignement est assuré par un seul enseignant, ça c'est un élément très très important du cahier des charges, que ce soit le professeur de sciences physiques, que ce soit le professeur de SVT ou que ce soit le professeur de technologie. Alors on a vu quelques pas de côté hein, dans l'expérimentation, on voit Toulouse par exemple qui a décidé de travailler en binôme, c'est-à-dire que le prof de techno se rapproche très souvent du prof de SVT. Mais c'est toujours pour le meilleur de l'enseignement, parce que ça permet d'avoir de plus grandes pertinences en termes de contenu. Donc les élèves, chaque semaine, ont un enseignement de sciences qui dure 3h30 et normalement assuré par un seul enseignant. Ça demande donc à cette équipe pédagogique, à ce trinôme, d'avoir des temps de concertation très importants, des préparations de cours en amont très importantes pour justement étudier tous ces points de convergence, se mettre à jour sur les connaissances, mettre au point leur vocabulaire, parce qu'il y a de ce côté-là eu un très très gros travail à faire. Ça a été l'un des premiers constats, d'ailleurs, par les enseignants quand ils ont commencé à travailler ensemble. Et ça a des répercussions sur les autres disciplines, parce que si on prend ne serait-ce que le mot « cellule », par exemple, son sens en sciences physiques, son sens en SVT, en techno, mais dans la langue française, tout simplement, comment est-ce qu'il est interprété? Alors, il y a eu des rebondissements sur les autres disciplines, bien évidemment, des rebondissements sur la langue, les langues étrangères en anglais, et puis un rebondissement très important sur quelque chose qui est un peu plus périphérique, c'est tout le travail sur l'orientation, parce qu'à travers le IST, on s'est intéressé aux métiers qui tournent autour de la science, bien évidemment, puisque ça faisait partie des objectifs de susciter l'intérêt des élèves pour les sciences, de favoriser la compréhension des sciences, et de donner de la cohérence dans cet enseignement. Et bien évidemment, de les inviter à s'engager dans les filières scientifiques supérieures. Donc voilà pour la présentation assez rapide de cette expérimentation. Il ne s'agissait pas... pour les partenaires de cette expérimentation, c'est-à-dire l'administration centrale, le ministère, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, de lancer des grandes polémiques, comme on les a vu un petit peu apparaître au départ, mais bien d'explorer comment les disciplines pouvaient se rapprocher. Et pour ça, on s'est appuyé sur l'article 34 que vous connaissez bien, on en parle depuis le début, et cet article-là, dit que c'est l'initiative du terrain. Eh bien, effectivement, si elle a été nationale, l'impulsion, on peut constater que toutes les équipes qui sont aujourd'hui engagées dans l'expérimentation, eh bien, l'ont toutes voulu. Elles ont toutes été dans une démarche, souhaitée. Et pour un grand nombre d'entre elles étaient déjà engagées dans des processus très très proches de ce qu'on proposait là dans le cahier des charges. Dans les expérimentations, on avait repéré déjà un bon nombre d'endroits où deux disciplines se rapprochaient, et très souvent c'était la science physique et les SVT, ou alors on avait les sciences physiques et les mathématiques à l'époque. On avait d'ailleurs repéré à Nantes le lycée de Treillières, hein, c'est ça ? Le collège de Treillières, pardon. Qui s'était engagé justement dans un rapprochement de disciplines comme ça, de fait parce que l'organisation matérielle de l'établissement faisait que les enseignants avaient pu se rapprocher. Alors, il ne s'agissait pas donc d'engendrer des débats autour de la bivalence ou de la trivalence des enseignants. Hein. Il ne s'agit pas d'aboutir à la polyvalence, ça c'était les grandes appréhensions des enseignants. Mais bien d'aller vers une meilleure compréhension de la spécificité de chacune des disciplines et d'en étudier les points de convergence, d'identifier les éléments qui pouvaient être transférés, tout ce qui pouvait être prospectif, en vue d'assurer, entre autres, une meilleure mise en place du socle commun de connaissances et de compétences. Voilà. Alors, cette évaluation, vous allez voir, elle est mise en œuvre par plusieurs partenaires. Il a fallu que chacun des partenaires se coordonne et que chacun approfondisse son travail et le présente aux autres. Les grands partenaires qui sont impliqués, c'est d'une part l'ADEP au ministère, donc la direction de l'évaluation, de la performance et de la prospective. L'inspection générale, l'INRP, la DGESCO. Maintenant, si on sort un petit peu du cadre national et qu'on se rapproche un petit peu plus du terrain, bien évidemment, les établissements sont les premiers impliqués, les rectorats à travers les corps d'inspection, à travers les cellules comme la MIVIP, la MEP, tous les autres noms qui apparaissent, les cellules de soutien aux innovations, sont extrêmement impliqués. Et puis le partenaire extérieur, hors éducation nationale, bien évidemment, l'Académie des sciences. Alors, il ne s'agit pas d'entrer dans le débat, là, sur évaluation interne, externe, tout dépend où on se situe, mais plus de voir comment on s'y prend, comment on s'organise les uns avec les autres pour qu'on évite les chevauchements, pour que, justement, dans la classe, les choses soient ressenties le mieux possible et que les éléments observés soient complémentaires, mais surtout apportent des regards qui nous permettent de repérer tous ces aspects prospectifs, tous les éléments transférables dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour chacun des partenaires, je vais reprendre ce qu'ils ont fait. D'abord, l'ADEP, la Direction de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Alors, elle est intervenue sur deux grands angles. Le premier angle, c'est celui de l'évaluation, des acquis, des connaissances et des compétences des élèves dans le cadre du socle commun. Là, on a travaillé l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif. Comment est-ce qu'on s'y est pris ? Eh bien, tout simplement, il y a eu un cahier d'évaluation qui a été élaboré, tout particulièrement pour cette expérimentation. Et c'est un cahier assez lourd qui a fait l'objet de très très grosses discussions entre les différentes inspections générales, l'Académie des sciences. Fallait-il, et puis l'ADEP, et l'ADEP aussi, parce que alors là il faut voir les discussions jusqu'où ça va, fallait-il évaluer dans chacune des disciplines, ou fallait-il dès le départ évaluer les trois disciplines à la fois, avoir l'approche intégrée même dans l'évaluation? Alors là, ça a pris beaucoup de temps. Et on a rectifié en cours de route, parce qu'on a commencé en évaluant simplement chacune des disciplines au cours de la première étape. Donc la première évaluation, c'est-à-dire à l'instant zéro, avant même que l'expérimentation soit commencée, elle a été faite à travers un œil disciplinaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait, à part une question, que des questions qui étaient disciplinaires et complètement axées sur les programmes et le socle commun. Ce cahier, il a été réalisé, bien sûr, comme je le disais, avec les partenaires, mais aussi très fortement inspiré des travaux qui ont été faits en académie. Et c'est là où c'est quelque chose qui est très très important. Vous parliez d'auto-évaluation tout à l'heure. Et l'une des académies s'est très impliquée dans cet aspect d'auto-évaluation. C'est l'Académie de Poitiers qui a créé des cahiers d'évaluation pour chacune des séquences qu'ils ont montées, qu'ils ont créées. Et il y a eu un travail énorme de fait, une personne qui a travaillé à temps complet dans cette académie pour construire ces évaluations, et elles ont fortement inspiré l'ADEP et l'inspection générale. Mais très rapidement aussi, ils se sont trouvés dans la difficulté d'élaborer des questions pertinentes, d'étudier les chevauchements, de travailler sur des questions fermées, des questions ouvertes, toute une technicité que des organismes comme l'ADEP maîtrisent très bien ou que l'INRP maîtrise très très bien. Donc vous risquez de rencontrer aussi ces difficultés-là dans votre parcours, c'est-à-dire dans l'auto-évaluation de vous-même, vous sentir à un moment un peu démuni. Et c'est là où il ne faut pas hésiter à faire appel aux services rectoraux, à d'autres collègues qui se sont déjà lancés dans ça, aux services, pour ceux qui ne sont pas du réseau des innovateurs, au service de l'innovation, qui a quand même maintenant une expertise dans ce domaine et qui saura vous guider. Et puis dans les services locaux d'évaluation et l'équivalent de l'ADEP dans les rectorats. L'ADEP, pour cette évaluation des acquis, des connaissances et des compétences, a la charge d'observer la cohorte de ces élèves jusqu'à leur entrée à la fac. Donc là, on va pouvoir étudier les conséquences sur l'orientation. Donc c'est vraiment une évaluation, là, sur le long terme et lourde. À l'ADEP, l'autre angle qui est étudié, c'est celui de la répercussion sur les conditions d'enseignement et d'apprentissage et sur le pilotage et la vie de l'établissement. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait discussion sur les mots, évaluation, observation, analyse, etc. Et là, on est en plein dans les questionnements de l'ADEP. Ce service de l'ADEP qui est chargé de cette partie de l'évaluation refuse d'utiliser le mot évaluation et demande à ce que l'on dise bien tout le temps, analyse des apprentissages, des répercussions sur les pratiques des enseignants. Donc là, on n'aura pas de choses chiffrées, normalement. On aura des choses qui seront très qualitatives, très fines sur les pratiques. Là, l'enquête est menée sous la forme de questionnaires qui sont rédigés à destination des enseignants et des chefs d'établissement. C'est un service qui peut aussi se livrer à des visites dans les classes et puis à des échanges, des entretiens. Là, il n'a pas choisi cette méthode, il a retenu uniquement la notion d'enquête. Voilà donc pour la partie DEP. Le deuxième grand partenaire, je les mets dans des sens différents. J'ai présenté la DEP tout à l'heure, l'IGN, l'INRP. Je passe par l'INRP maintenant. Tout le monde est à part égale dans cette évaluation. L'INRP, pour sa part, elle s'intéresse à questionner les pratiques enseignantes dans un nouveau contexte qui est celui de l'enseignement intégré des sciences. La problématique de recherche s'organise autour de deux grands pôles. Le premier, c'est quelles compétences professionnelles sont nécessaires pour mettre en œuvre le IST. Alors, j'avais prévu un petit PowerPoint que je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc, je vais terminer, je transmettrai à Christine Ladret et il sera accessible, je dirais, enfin, on va pas être trop... d'ici une quinzaine de jours. accessible d'ici une quinzaine de jours. Donc, ces axes-là seront faciles à retrouver dans le PowerPoint qui sera transmis par Christine. Et la problématique, son deuxième pôle, c'est qu'est-ce qui est en jeu dans le changement de la structuration des disciplines ? Les approches par thématique ou par compétence, quelles sont les conséquences au niveau des curricula et des disciplines ? Alors là, quel est le choix des chercheurs ? Eh bien, c'est de travailler à partir des études de cas. Ils procèdent à des enregistrements audio et ou vidéo de cours, de séquences de cours, et puis ils procèdent aussi à des entretiens avec les enseignants, chefs d'établissement et autres personnels si nécessaire. Et il y a quelque chose d'assez intéressant qui a été initié par cette recherche et qui a beaucoup servi à l'expérimentation, c'est la notion de carnet de bord que les enseignants... Donc ça, le carnet de bord a été demandé par la personne qui a lancé la recherche, Marine Coquidet, aux enseignants. Et ils se sont lancés dans la chose et se sont appropriés cette idée de carnet de bord, l'ont complété, l'ont suivi et ont demandé à leurs élèves également de le faire. Et on constate que ces carnets de bord sont des choses extrêmement précieuses parce que ça permet d'avoir l'œil des élèves et de voir comment ils progressent et comment ils se sentent dans ça. Et le cheminement sur l'année est facile à observer. Comme ça marche absolument dans tous les sens. Hein. Les évaluateurs, les observateurs se nourrissent du terrain, mais eux, ils apportent énormément, même au moment où ils lancent leurs travaux. Ils portent des questionnements, ils apportent des méthodes aussi très très riches. Et puis, bien évidemment, l'INRP va donner son œil sur l'international, hein, cette mise en perspective sur ce qui se fait à l'étranger également dans ce domaine. Le troisième grand partenaire de l'évaluation, c'est l'inspection générale. Elle va mener une expertise sur les effets de l'EIST, là, sur les apprentissages des élèves et puis sur les pratiques des personnels dans l'établissement. Ils vont porter leur vision sur les pratiques des enseignants, sur les acquis des élèves, le travail des élèves, les méthodes de travail des élèves, et puis sur le pilotage de l'établissement et comment le travail de concertation, etc., s'est mis en place dans l'établissement. Là, c'est une vision globale. On pourrait dire que là, le niveau d'observation était un niveau qu'on pourrait qualifier de national. Si on se rapproche un petit peu plus de la classe, c'est-à-dire si on essaie d'avoir une évaluation plus au niveau local, au niveau de l'établissement, là, il y a tout simplement des évaluations très basiques qui ont été énoncées tout à l'heure, présentées tout à l'heure par le recteur. C'est celles qui sont habituellement utilisées par les chefs d'établissement. Dans le cas des collèges, c'est le taux de réussite au DNB. c'est les taux de redoublement, l'absentéisme. Ça, ce sont des éléments fréquemment utilisés par les chefs d'établissement. Et pourtant, trop peu aujourd'hui encore mentionnés dans les expérimentations et dans les innovations. Ça évolue, on les voit apparaître, mais ils ne sont pas encore... On n'ose pas les montrer peut-être, on n'ose pas les donner, alors que ce sont des éléments très importants qui nous permettent d'avoir des points de départ, des points de recul sur une ou deux années auparavant, qui sont des éléments fiables, et qui ne sont pas des éléments qui les trois quarts du temps, voire plus, apportent une vision de sanction négative, au contraire. Et ils ont un rôle très important, c'est qu'ils permettent de voir le point de départ et d'observer l'évolution. Donc ils sont très très importants à repérer, à mentionner. Là, je vais faire une toute petite digression, c'est sur ce que nous vivons actuellement, que vous vivez pour une bonne partie d'entre vous aussi, puisque vu les échanges que j'ai eus. On voit dans les remontées dans le cadre de l'expérimentation au lycée que ça, ce sont des éléments qui ont été demandés très catégoriquement, hein, et qui remontent, mais sans aucune difficulté, et qui apportent vraiment un plus aux expérimentations pour étayer le projet, pour étayer les actions. On fait ça parce que, regardez là, le taux de redoublement en seconde, il est tel qu'on a décidé de réagir, on a réagi à cette époque. L'analyse des catégories socio-professionnelles, tous les éléments qui sont à votre disposition sont des éléments importants et qui permettent d'étayer à chaque fois votre discours, votre analyse, de fixer vos objectifs, etc. Donc là, il y a peut-être des pratiques, des coutumes qu'il faut un petit peu bouleverser, je dirais, dans le réseau des innovateurs, là, hein, parce que vraiment, ce sont des choses qui ne sont pas difficiles à trouver. Les enseignants également sont très impliqués dans l'évaluation de l'EIST, bien évidemment. Hein, tout le monde se livre à son auto-évaluation plus que dans d'autres expérimentations, enfin innovations, initiatives du terrain, parce que justement, l'investissement est tel qu'on veut prouver qu'il y a du résultat. Et donc là, il y a de nombreuses grilles d'auto-évaluation qui ont été faites un peu partout dans tous les collèges. Et le gros exercice le plus difficile, c'est de mutualiser tout ça. On ne réussit pas très bien cet exercice-là. Ça marche à peu près à l'échelle académique. Et ça marche parce que les corps d'inspection jouent un très très grand rôle, j'en parlerai dans quelques minutes, dans cette expérimentation. Et ils aident énormément à la diffusion de tous ces éléments qui sont créés par les équipes. Alors, on voit aussi que donc, ces éléments d'auto-évaluation qui sont créés, ces indicateurs nouveaux qui sont créés pour la circonstance de ce nouvel enseignement, eh bien, engendrent des choses tout à fait naturelles, comme la création sur les bulletins de notes d'une entrée nouvelle, science. Et là, parfois, on voit des enseignants, enfin le collectif, l'équipe éducative, qui se refuse à porter une note évaluée, mais juste à porter un critère, une appréciation. Donc, on voit que les pratiques changent et qu'on est dans un grand respect de l'un et de l'autre, mais aussi un respect de l'élève, parce que quelque part, c'est pas non plus facile pour cet élève, lui, d'avoir un regard nouveau, parce qu'on lui a toujours dit « tu vas travailler les sciences physiques, tu vas travailler les SVT », il s'attend à voir quelque chose de très, très clair, mais ce n'est pas le souhait qu'on veut avoir, alors on ne va pas non plus lui donner une note brute. Si je m'éloigne un tout petit peu de la classe et de l'établissement, on arrive au rectorat. Là, les corps d'inspection, comme je le disais, ont un rôle extrêmement important à jouer, et on voit que c'est ce sont des personnels qui bougent énormément, qui s'interrogent énormément dans leur pratique. Ils ont un rôle dans l'EIST d'accompagnement qui est total, aider les enseignants à préparer leur progression, préparer leurs cours, travailler les points de convergence, définir leurs organisations, choisir les thèmes qu'ils vont étudier. Va-t-on plutôt étudier l'énergie ou plutôt les matériaux? Trouver le thème qui va permettre d'assurer la meilleure convergence. ont un rôle très important également dans l'évaluation, bien évidemment, pour essayer de guider à construire ces auto-évaluations, à construire les nouveaux indicateurs pour voir les progressions des élèves, voir comment les pratiques d'enseignement changent, comment elles évoluent. Et très souvent, ces inspecteurs, enfin, dans le cas des sciences intégrées, c'est pas souvent, c'est dans aucun cas, ils ne se sont livrés à une inspection classique, à une évaluation classique des enseignants. En aucun cas. Ils se sont toujours livrés à des observations, enfin, ils ont formulé des observations oralement, par écrit. Hein, ils l'ont fait par écrit, c'est tout à fait normal. Et à chaque fois, ça a été dans le souci de structurer le projet, de faire avancer le projet, d'aider l'équipe. On a vu des binômes disciplinaires ou transdisciplinaires se créer. Si je sors de l'EIST, si je prends le cas de l'Académie de Toulouse et de l'enseignement des sciences, eh bien là, on voit des binômes bidisciplinaires qui se créent. Toutes les expérimentations à Toulouse sont observées par deux inspecteurs. Alors là, ils ont fait des choix très particuliers en fonction de chaque thématique d'expérimentation. Ils ont décidé s'ils allaient se concentrer plutôt sur la discipline ou s'ils allaient avoir un regard plus large en étant transdisciplinaire ou bidisciplinaire. Et chaque binôme rend un rapport commun. Enfin, dresse un ensemble d'observations communes qui permettent d'avoir le retour au niveau du rectorat, mais qui permettent aussi à l'équipe de travailler ensuite à partir de ça. Voilà, je dirais que pour l'échelle nationale et l'échelle locale, on a balayé les choses. Le grand partenaire ensuite qui est à nos côtés dans le cadre de l'expérimentation des sciences intégrées, c'est l'Académie des sciences. Et elle va porter un regard avec l'intervention des académiciens qui est très important pour justement travailler sur cette évolution de l'enseignement des disciplines à travers les points de convergence. Je vois l'heure qui avance et j'ai encore envie de vous dire plein de choses. Donc ça va être un peu difficile. Ce partenaire, il ne faut pas le négliger parce qu'il apporte un œil vraiment souvent très différent au sein de l'éducation nationale. Si je prends le cas d'Innovative School, c'est un œil qui est celui porté par Microsoft. Si je prends le cas des expérimentations dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation au développement durable, ça peut être celui de l'ADEME ou d'autres partenaires comme celui-là, ils ont un regard très très riche et ils nous apportent énormément. Donc ce sont des partenaires qu'il ne faut pas négliger. Enfin, je nous ai mis en dernier, c'est l'administration centrale et plus particulièrement la DGESCO et la MIVIP. Alors son rôle, il est pas simple hein, dans cette expérimentation et dans les expérimentations en général. Son rôle est de coordonner hein, l'ensemble, de faire que ces chevauchements soient évités, de faire que la communication soit bien assurée, parce que l'arrivée d'un seul coup de 10 personnes dans un établissement sur une classe ou deux classes, c'est extrêmement impressionnant, c'est extrêmement dérangeant, ça peut être extrêmement maladroit, surtout quand ils ne sont pas informés. Et de ce côté-là, on a un rôle important à jouer, un rôle d'information du recteur, d'information du chef d'établissement, etc. C'est aussi le rôle localement, quand on fait les choses à plus petite échelle, des MIVIP, etc. Donc on a essayé de jouer ce rôle, mais ce n'est vraiment pas simple. On a aussi un rôle d'évaluation quelque part pour essayer d'observer les éléments de la plus-value. Et ça, c'est pas, je dirais, quelque chose sur lequel on est très au point encore. On évolue. Il nous semble nécessaire de pouvoir à un moment observer ce qu'apporte un dispositif expérimental dans un établissement scolaire. Donc c'est un petit peu tout ce qui est à la périphérie de l'expérimentation, toute la plus-value au sein de l'établissement même. Voilà, donc j'ai balayé dans le cadre de cette expérimentation tous les partenariats qui sont mis en œuvre. Alors, bien évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire pour toutes les expérimentations, d'abord parce que c'est impossible, parce que toutes ne nécessitent peut-être pas une évaluation aussi lourde, mais il est sans doute très important de croiser les regards à différentes échelles. Et si on s'attaque au croisement des regards, il faut être extrêmement conscient que il y a des synergies à penser et puis des fuites, enfin des pertes de d'expertise à éviter. Voilà, on me dit qu'il faut absolument partir. Je suis sincèrement désolée de ça parce que j'aurais voulu vous laisser un tout petit temps de parole pour poser des questions. Voilà. J'espère vous avoir éclairé un tout petit peu à travers cette expérimentation très, très précise. Et voilà.